Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast de jeux de rôle. Nous sommes en juillet 2014 et c'est le numéro 37. Aujourd'hui, c'est le numéro apéro. Et autour de la table, il y a plein de gens. Callisto ?
Oui, de là. Donc je suis venu pour le punch. C'est mon anniversaire.
C'est vrai ?
Voilà.
Oh, joyeux bon anniversaire !
Mon anniversaire de Radio Roliste, hein, pas le vrai. Ah.
Steve ?
Je suis aussi venu pour le punch. Mais bonjour à tous.
Ça, on dirait vraiment une réunion de...
C'est pour ça que c'est pas les mêmes que d'habitude. Enfin, presque.
Bonjour, je m'appelle Steve et j'aime le pont.
Avec Cyril.
Moi, j'étais venu pour faire une chronique, mais apparemment, quelqu'un d'autre va la faire à ma place. Du coup, mais il paraît que quand il fait chaud, il faut beaucoup boire. Voilà.
Parfait.
Il faut s'hydrater, comme on dit.
Et nous avons aussi un auditeur, Jeff.
Ouais, moi, je suis venu voir tous ces affreux. Je les ai écoutés un petit peu et je vais voir comment ils fonctionnent en vrai.
Et nous avons également François.
Oui, et ben pendant que eux ils parlent, moi je bois.
Donc vous voyez le plateau est là, le punch est là également. Nous allons tout de même essayer de parler de choses intéressantes malgré le degré d'alcoolémie. Donc nous aurons tout d'abord The Hood. Je sais pas, je l'ai bien.
Alors on n'a pas nos experts en anglais, donc on nous a dit aspire le H. C'est tout ce qu'on m'a dit. Moi, après,
The Hood. Hood.
Voilà, j'essaierai de le prononcer comme ça, un peu comme coude, mais avec un C en moins.
D'accord, ok. Donc Callisto, le coude. Ensuite, Steve, Sword Without Master.
Oui, tu me regardes, tes yeux semblent me poser la question, est-ce que je l'ai bien prononcé ? Mais pareil, je ne suis pas du tout spécialiste en anglais, et moi aussi je vais très mal le prononcer, parce que c'est un jeu au nom compliqué.
Ah, il y a trois mots.
Ensuite, François, tu nous parleras de...
Je vais vous parler de Puppetland, et concernant Sword, il faut juste penser à ne pas trop marquer le W. Sword.
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 Oh là là. Ah, c'est Password. Alors.
On a bien un spécialiste en anglais. En
Donc, sourde.
Voilà. Sourde.
Without Masté.
Donc le coude. Le coude, la soude et le Puppetland. Quant à moi, je vous parlerai un petit peu et de la version bêta de Urban Shadows. Qui est un jeu dont le Kickstart s'est terminé il n'y a pas longtemps.
Voilà, il y a une semaine avant l'enregistrement.
Voilà.
Autant t'es obligé de travailler vite.
Oui.
Voilà.
Et bien, ma foi, je propose que nous commencions tout de suite avec le coude.
Ok, donc. The Hood, de James Mullen, qui est donc un anglais, qui a fait d'autres choses, mais je ne sais plus quoi. Ça a aussi été. C'est certainement dû aussi être un Kickstart. Hein, mais là, moi, je l'ai vu ça suite. Il y a notre dernière émission où ça nous avait été suggéré, en fait, comme système pour faire du The Wire, dont parlait Com. Qui avait rencontré quelques pas déconvenus mais pas, c'était pas la perfection avec Smallville quoi. Bon j'aurais bien aimé en reparler avec lui mais nous verrons cela une autre fois.
Ça arrivera, ne t'inquiète pas, vous aurez cette conversation.
Parce que je pense qu'il faut placer le mot Smallville précamment.
Voilà.
Donc The Hood c'est un hack de Apocalypse World et à la différence de ce qu'on voit très souvent, c'est pas un système complet. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas déjà équipé d'un jeu Apocalypse World, de préférence Apocalypse World lui-même, vous aurez un peu de difficulté à l'utiliser. Il faut avoir une certaine connaissance en fait, du système pour pouvoir utiliser ce qui est le contenu du document. Moi j'avais suivi vaguement les débuts du jeu, je m'étais posé la question en voyant le PDF, je me dis 158 pages, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté depuis, puisque au début il n'y en avait que 35.
Ah oui, effectivement.
Donc je m'étais dit le PDF vaut peut-être la peine. Alors c'est pas qu'il ne vaut pas la peine, mais on peut le trouver en dur sur Lulu à 7,90€, hein, et le PDF en fait est à 5$ sur Drive-Thru et compagnie, ce qui est un prix très raisonnable.
Oui, ça va quand même.
Mais quand on voit qu'il y a marqué 158 pages, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait c'est 158 pages en trifold, donc en fait il y en a 3 fois moins. C'est-à-dire que si. Donc en fait, c'est 50 pages. Et ce qui est logique, puisqu'en fait, le contenu du document va être principalement des livrets. Les livrets, donc un classique auquel on est habitué maintenant dans tout ce qui est lié à Apocalypse World. Et un petit peu de moves spécifiques au jeu. Et assez peu de conseils de jeu. On va voir tout ça en détail.
Bien.
The Hood, donc, ça nous. Le sous-titre, c'est Big Fish in a Small Pond. Donc en fait, on va jouer effectivement le gros poisson, mais dans une toute petite mare. En gros, chacun est le caïd dans sa rue. Et les PJ sont les caïds des rues d'à côté. Donc, en termes de poids, quand bien même tu es un escroc, un faussaire, un hacker et compagnie, etc., tes crimes, parce que tout le monde va jouer des petits truands, un petit peu comme on va en voir dans des films de Guy Ritchie, à la Snatch, Arnaque, Crime et Botanique, etc. Donc tout le monde a ses petites combines particulières, donc chaque livret est différent, mais personne ne roule sur l'or. Et le but est bien évidemment de faire du pognon pour améliorer son niveau de vie et quitter The Hood, qui est donc pas la capuche, mais The Neighborhood, donc le quartier un peu pourri dans lequel on vit. Alors, on a en tout 18 livrets, c'est un peu un record, parce que généralement, dans les jeux à l'Apocalypse World, on part avec une dizaine, douzaine de livrets différents. Donc là, on va avoir par exemple du dealer, du macro, un hacker, un intermédiaire, du porte-flingue, le gars qui va venir te casser la gueule pour récupérer son argent, le hacker, un voisin innocent aussi, enfin plus ou moins innocent, qui est vachement bien pour planquer les trucs pourris que t'as récupérés et qui sont tombés d'un camion. On peut faire un docteur, un flic pourri, ou pas tout à fait pourri, un convoyeur, un maître chanteur, un marchand, un prêteur sur gage, vraiment tous les petits trucs, tous les deux petits combinards en fait qu'on peut trouver vont se retrouver dans les livrets disponibles pour le jeu. Ces personnages vont classiquement avoir des moyens d'action dans le jeu par des moves, et qui vont être en gros là faire passer le mot, c'est-à-dire ça c'est en gros je fais passer le mot dans la rue que je vais chercher à mettre la main sur quelqu'un qui saurait percer un coffre par exemple, ou que j'aimerais bien retrouver le salopard qui aurait cambriolé l'entrepôt 22 qui m'appartient, ou des choses de ce style-là. On va pouvoir effacer ses traces, donc ça va être en gros, j'essaie de la jouer subtile, que ce soit en défonçant une porte, enfin en voulant passer un obstacle, ou en essayant de récupérer des informations ou quoi que ce soit. À l'inverse, on va pouvoir foncer dans le tas, ce qui donc risque de laisser des traces. Pinailler quand on commence à faire des accords, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord à peu près sur le fait qu'on va faire un job ensemble, mais moi je commence à essayer de pinailler pour tirer mon épingle du jeu et obtenir une plus grosse part du bulletin. Puisque on va estimer que, en tant que reseller, c'est moi qui prends plein de risques et compagnie. Voilà. On va pouvoir aussi essayer de trouver un plan B, donc ça c'est un peu le jet d'idée, genre MJ, trouve-moi une issue de secours parce que ça commence à devenir foireux. Payer cash, les rares moments on aura du fric, et le reste du temps on va plutôt essayer de faire profil bas, voire de balancer les autres. Parce que dans ce jeu, l'indicateur de survie en fait c'est la pression, hit, donc en VO, et le but du jeu va être... Très fréquemment, on va gagner en pression en fonction des échecs ou des réussites qu'on va avoir sur les manœuvres et des coups qu'on va essayer de faire. Et quand on arrive à 5 en pression, en fait, on est grillé. Grillé, ça veut dire qu'on s'est soit fait gauler par les flics, soit on s'est fait reparer par des vrais mafieux, pas les petits combinards de merde du quartier. Et ceux-là, ils viennent, ils disent « Attends, là, tu t'enches un petit peu sur mes plates-bandes, donc, pum pum, il n'y a plus. » Donc, Oui.
Plop,
voilà. Il nous faut un petit bruitage style tonton flingueur.
Oui, c'est ça.
Alors la pression, bien évidemment, on va se dire qu'on n'a pas envie de monter à un trop haut niveau de pression puisqu'à 5 on est grillé, mais c'est néanmoins le nerf de la guerre dans le jeu puisque à chaque fois qu'on va gagner un point de pression, on va aussi gagner un XP, et on a besoin de ces précieux XP pour gagner les fameux avancements qu'on a dans Apocalypse World. On va avoir 3 moyens de les gagner précisément, en prenant de la pression, en endettant les autres PJ et en arrivant à se remettre à flot, puisque chaque livret va avoir des conditions en fait pour maintenir son train de vie, pour arriver à avoir ce niveau de vie relativement modeste. Par exemple, il y a certains, quand les flics vont commencer à venir fouiller dans la rue, le gars va rester vraiment planqué et arrêter toutes ses activités, et donc du coup, il n'y a plus de pognon. Ou alors, si quelqu'un qui était censé un tueur a raté sa cible, à partir du moment où ça se sait, il a plus de contrat, il a plus rien, donc en gros la manne céleste et le pognon arrêtent de couler. Donc il faut que chacun des personnages, le MJ va avoir pour rôle de les pousser un petit peu dans des retranchements et donc de mettre en jeu leur niveau de vie. Mais quand ils arrivent à récupérer leur train de vie, donc à refaire des magouilles, à refaire des accords avec des gars encore plus pourris qu'avant, dans ces cas-là, ils gagnent aussi de l'XP. La pression aussi, cette possibilité donc de ne pas être encaissé directement, on peut balancer son voisin. C'est-à-dire qu'au moment où les flics vont commencer à venir toquer à la porte, on peut tout à fait leur dire « Ouais, mais en fait, vous savez que j'ai senti des odeurs de fines herbes suspectes dans l'entrepôt d'à côté. Oui, celui où ils ont une grosse consommation d'électricité. » Et hop, là, on s'est débarrassé, temporairement du problème.
Est-ce que ça marche uniquement entre les PJ ou est-ce qu'on peut balancer un PNJ ?
De base, ça marche sur les PJ. Les mécaniques, on va voir, le gros lien entre les PJ et les PNJ dans ce jeu-là sont basés sur les dettes. C'est-à-dire que ce qui va déterminer les liens initiaux entre les personnages joueurs, ce ne sont pas des X comme dans Apocalypse World ou des ascendants comme dans Monster Heart, mais des dettes initiales. Genre, j'ai déjà bossé pour toi, je t'ai déjà fait des faux papiers, j'ai donné, j'ai fait de la médication personnelle pour ta grand-mère souffrante, et voilà. Donc en fait, tous les personnages commencent avec un certain niveau de dette, en gros un peu de plus 1 à plus 3, et ce niveau de dette va servir quand on va, comme dans Apocalypse World, vouloir aider ou interférer avec un autre PJ. Si tout le monde s'en remet un petit peu les
oui,
choses.
Oui, oui, bien sûr.
Donc le seul truc qui ressemble un peu à, un mécanisme de jet contesté, de jet en opposition, ça peut être un petit peu ça. C'est intéressant de faire augmenter le niveau de dette qu'on a avec les autres, puisque ça va aussi donner des possibilités d'amélioration du personnage. On va par exemple pouvoir piquer des moves à ses petits camarades de jeu. Ce qui veut dire que, à la différence des autres systèmes Apocalypse World, où généralement on va nous dire dans les possibilités d'évolution de notre personnage, on peut acheter un avancement de n'importe quel autre livret. Là en fait on va être restreint quelque part au livret qui se trouve autour de la table. Donc si, si j'ai un flingueur, bah, il va progressivement aussi un peu contaminer, potentiellement contaminer la table. C'est-à-dire qu'à force d'être en contact d'un gars qui tue les gens, bah, les autres vont aussi commencer à s'équiper en flingue et à avoir le même genre de manœuvre en fait, que le même genre de move que le flingueur. Ça, je crois que c'est exclusif à ce hack-là. Je crois que je l'ai pas vu. Pour le moment, je l'ai pas vu ailleurs. Bon, je connais pas tous les jeux non plus. Les liens qu'on a avec des PJ donc, sont exprimés sous forme de dette, mais pour tout ce qui est lié avec les PNJ, on a une ardoise donc, sur laquelle on va aller inscrire à chaque fois les petits services que les gens nous ont rendus. Donc très souvent, dans le cas où on va rater un move, ou même des fois quand on le réussit, eh ben, on se retrouve à noter que bah, on a fait des faux papiers pour un tel, ou un tel nous a couvert tel jour en disant qu'il était au bar avec nous, et hein. Et en fait, on ne pourra pas faire appel à un PNJ qui est déjà sur notre ardoise avant de l'avoir remboursé, soit spontanément, soit quand c'est lui, par le biais d'une MJ qui va le faire revenir, juste au moment où t'en as pas besoin, genre en plein coup foireux, ton téléphone sonne, et c'est Gérard, qui aimerait bien que tu lui rembourses ce fameux...
qui a vraiment besoin d'une planque pour ce soir.
qui aimerait bien que l'argent que tu as parié, qu'il a parié sur le tiercé gagnant, et pour lequel t'as fait le bookmaker d'occasion, bah, il aimerait bien récupérer ses gains ce soir. Argent que tu as toi-même investi dans le coup dont tu n'es absolument pas sûr qu'il réussisse. Voilà. Donc ton ardoise grossit, les livrets n'ont pas tous les mêmes moyens de les gérer. Mmh. Par exemple, l'intermédiaire, lui, à un moment donné, il va pouvoir dire bah, « Attends, écoute, Gérard, voilà Robert. Robert, je lui devais quelque chose aussi. Je suis sûr que tous les deux, vous pouvez faire des bons plans ensemble. Et si t'as un petit peu de chance sur ton jet de dés, les deux se font affaire de manière intéressante hein, et t'oublies. Donc tu nettoies ton ardoise comme ça. » Donc, comme dit, c'est vraiment une mécanique très axée sur les notions de pression, de dette et d'ardoise. On va vraiment tourner sur ces trois pôles pour les personnages, hein, ce qui veut clairement dire que si on n'a pas du, si on n'a pas des joueurs orientés PVP, le jeu va être, je pense, un peu mou. Faut vraiment que les gens fassent des accords entre eux et se trahissent.
Faut qu'ils n'hésitent pas à se rentrer dans l'art pour que ce soit sympa.
Ouais,
en fait.
Les dettes initiales, de toute façon, créent directement des rapports pas nécessairement amicaux entre les PJ. Et la manœuvre spéciale en fait, qu'on va avoir dans The Hood, c'est pas une manœuvre sexuelle comme dans une manœuvre intime comme dans Apocalypse World, c'est une manœuvre de trahison. C'est qu'est-ce qui se passe ? Pas quand toi tu trahis l'autre, mais quand tous les deux vous vous plantez. Donc en fait, on est même encouragé. Si j'ai un accord avec toi, Cobal, et que je te plante, bon, c'est un fait, mais toi tu gagneras plus une dette avec moi, parce que tu te rappelleras le salaud,
oui,
etc. D'accord. Donc t'as quand même un avantage technique potentiellement au bout de 4 points. Par contre, si on se plante tous les deux, mutuellement, genre je te trahis, mais pendant ce temps-là, toi-même dans ton dos, t'es en train de me donner au flic ou n'importe quoi. Dans ce cas-là, on active nos manœuvres spéciales, qui vont elles aussi vont jouer sur la pression, sur le pognon, sur différentes choses, quoi.
Ok, tu peux donner un exemple de ce que ça peut donner
Bah écoute, oui, hop là, je trouve une petite page. On a un personnage qui s'appelle le Bastion, bon j'appellerais plus ou moins ça le Rempart, c'est le gars qui fait un petit peu de raquette de protection, mais c'est pour protéger le quartier contre les gens encore plus méchants que lui. Parce que si c'était pas lui, ce serait des gens pires qui le feraient. Et donc lui, bah, en fait, dans le...
Casse-doigt, on l'appelle.
Voilà, par exemple. Lui, en fait, c'est, il perd un peu sa crédibilité à partir du moment où c'est d'autres gens qui commencent à péter la gueule aux emmerdeurs dans la rue. Et lui, justement, en fait, quand il y a une double trahison, il a le droit de te faire un move spécial pour te faire dégager du quartier. Donc il t'expulse du quartier, il te botte le cul méchamment et tu peux plus revenir dans ta maison.
Ah, voilà. C'est bon ça.
Oui, tu peux revenir une semaine plus tard, mais il faut que t'aies changé de nom et d'adresse, quoi. En gros. Voilà, c'est le genre de choses, mais comme dit après, ça joue souvent sur les notions de dette, d'ardoise et de pression, et c'est un jeu qui est techniquement simple, il est pas compliqué. Les moves sont pas alambiqués, ça reste assez simple dans leur application, quoi.
D'accord.
Est-ce qu'on peut jouer Omar dans ton jeu?
Omar Sharif?
Non, Omar de The Wire.
Ah non, je sais pas, je connais pas. Qu'est-ce qu'il fait Omar?
Il a un fusil à pompe et il détrousse les voleurs.
Et eh ben écoute, sans que tu le saches, tu vas me permettre de faire une transition avec le point suivant où on va parler un peu de la santé. C'est pas un système où on va avoir des points de vie. Comme Saga of the Islander, en fait, les notions de vie et de mort sont assez fragiles. Et la barrière n'est pas bien grande et n'est pas bien épaisse. Donc du coup, en fait, on a que trois étapes possibles en bonne santé. Ça, on l'aide au démarrage. À terre, c'est le moment où le gars se fait défoncer dans une ruelle. Il repart en fait en se tenant à peine debout, avec une rotule pétée, un poumon perforé et le nez pété. Et il rentre chez lui. En fait, il est plus trop capable de se tenir debout, ni du coup de gérer son boulot. Donc, il n'est plus capable de maintenir son niveau de vie à flot. Et là, en plus, il a moins un sous ses jets de dés, etc. Donc déjà, être à terre, si on dit, voilà, je te mets un coup de boule, un truc comme ça, ça c'est bien, c'est du décoratif, on considère que tu restes bien. Si on a vraiment fait les manœuvres pour te mettre à terre, ce qui implique qu'on était armé, d'où l'intérêt, je parle du shotgun, etc., le jet va pas se faire avec une caractéristique du personnage joueur, mais en fait avec un bonus lié à la taille de l'arme. Donc voilà, le petit canif, la batte de baseball...
Le lance-roquette...
Voilà.
Le missile sol-sol, enfin bon, bref.
Bah, en gros, on a la version où je te mets à terre, sous-entendu, je t'attaque avec une arme de mêlée, donc le katana sous mon impair, par exemple, un classique des années 90, oui. Hein, tous les magiciens vampires l'avaient, et on a la deuxième version qui est encore plus méchante, puisque là, ça va être le but du jeu, ça va être de te refroidir directement, et donc là, c'est si on a une arme à feu. Donc là, avec ton fusil à pompe, tu jettes de l'étiste, t'ajoutes plus 2 ou plus 3, il y a des chances que ça fasse des tâches, et en fait, c'est un peu net et sans appel, le personnage, il est mort. C'est pas des choses à prendre à la légère, mais en fait même le MC ne va pas généralement glisser ce genre d'enjeu de lui-même. C'est à partir du moment où un PJ va prendre le risque de se dire c'est bon, je vais descendre machin, que le MJ va sortir en fait de son côté la même artillerie et dire bah, ok, mais la conséquence c'est que peut-être toi aussi tu vas être flingué. Et si t'es flingué, à moins d'avoir un docteur dans le pâté de maison juste à côté, donc en gros il y a intérêt à ce qu'un autre PJ en ait pris un, ou est-ce qu'il y en a un PNJ qui a été glissé et qui ressemble à ça. Sinon en gros le personnage il va y rester, quoi. Prenez un dealer, c'est très bien, ça soigne très bien.
Un peu comme dans Pulp Fiction, il a le petit kit avec l'adrénaline.
Ouais, c'est ça, ouais. T'as le livret du Feel Good, bon, je vais appeler ça le bon docteur en fait, donc c'est celui qui a des plantations ou qui tape un peu dans la caisse de la pharmacie. Lui il a cette possibilité là de te ramener d'un état à l'autre assez facilement, quoi. Et ces armes justement, généralement on va pas les avoir au démarrage, parce qu'on n'est pas, comment on dit, on joue des petits truands de quartier, donc très fréquemment quand on va avoir des armes, ça va être des armes obtenues au marché noir, qui vont avoir un tag, les tags qu'on avait aussi dans Apocalypse World, ils sont très peu nombreux en fait dans ce jeu là, mais le tag important c'est brûlant. En gros, c'est l'objet hot, quoi. C'est le truc qui vient d'être volé, le flingue qui a servi dans une affaire.
Le diamant qui est sur la photo du journal.
Voilà, les MacGuffin ou quoi que ce soit, quasiment tout va avoir le tag hot, brûlant, quoi.
Ça a disparu des CD.
Ah, qu'est-ce qu'il fait, ce tag, concrètement, dans le jeu?
C'est presque un tag patate chaude, en fait.
Oui, c'est complètement ça. Et ce tag, il va être géré par certains livrets. Par exemple, si tu le plantes chez Mamie Chombier, qui est le livret de la voisine tranquille, et bah, elle a peut-être la possibilité de tout ce qui est chez elle, en fait, tu ne douterais pas qu'elle a un diamant, etc. Donc elle va dire, oh non, c'est la bague de fiançailles offerte par mon mari. Et donc du coup, tu ne te doutes pas que c'est le fameux objet. Ou alors, t'as un fourgue. Le fourgue, lui, à partir du moment où il a revendu l'objet, il perd le tag brûlant. Voilà. Donc, et en fait, ce tag, il n'est pas simplement décoratif. Tu as plus un en pression par objet brûlant que t'as sur toi. Donc si t'as un flingue que t'as chopé au marché noir, plus le fameux bijou, t'as déjà plus 2 en pression, donc pour bug t'es déjà 1 ou 2 points dès le démarrage, un move de trop, et tu te fais avoir.
Ouh. Voilà.
Il y a des petites... Un autre truc intéressant, on a le flic pourri en fait dedans. Enfin, c'est le flic qui détourne un petit peu le regard, mais ça peut tout à fait être un flic infiltré. Et l'une de ces, s'il a choisi l'option flic infiltré, alors il a des quelques protections, on va dire, on peut pas lui envoyer de pression, etc. Mais le jour où on le met à terre, en fait, bah, le jour où il le tabasse, les gens s'aperçoivent quoi. Mais il a un micro. Ou alors, mais regardez, il a une plaque de flic. Donc en fait, tu n'as pas de case. Il y a pas de case à terre pour le flic pourri, pour le flic infiltré. En fait, il a la case de bonne santé. Et le jour où il se fait mettre à terre, les gens voient que c'est un flic et ils le butent. Voilà. Comme dit, les moves sont assez simples et sont bien dans l'esprit du jeu, quoi. Voilà un petit peu pour les grandes lignes.
Ça a l'air super sympa, en
alors,
fait.
Alors, ouais. On n'a pas réussi à faire un playtest complet, on a juste fait une création. Ouais. La création est un petit peu particulière et assez sympathique. Tout ça s'est fait par Hangout, donc on a utilisé deux supports. D'un côté, moi, je gérais un peu la carte des relations qui s'établissait quand on parlait des dettes et quand je posais des questions aux joueurs. Et de l'autre côté, les joueurs s'amusaient gaiement avec un document partagé en faisant le dessin des rues. Puisque quand on va créer le quartier, le MC met une première rue principale et en fait tous les joueurs vont dessiner en fait une rue en la nommant et c'est la rue dans laquelle habite leur personnage. Donc ils vont marquer où se trouve leur maison dans un premier temps et dans un second temps en fait ils vont rajouter de la déco, ils vont mettre un endroit auquel ils sont liés qui se trouve dans une autre rue, donc une rue gérée par les petits camarades de jeu. Donc du coup peut-être que le pub dans lequel tu vas souvent se trouve au final dans la rue du tueur qui, après qu'on ait parlé des dettes, est peut-être pas spécialement ton meilleur ami. Et lui, il loge dans une chambre qui se trouve en haut, à l'étage. C'est bête. Quand on aura fait ça, déjà, on va aussi progressivement marquer où habitent les différents PNJ qu'on va rajouter. Donc on crée vraiment un petit quartier. Je peux pas faire de comparaison avec les quartiers dans Westburg parce que je l'ai pas lu. Mais j'aurais bien aimé pouvoir avoir quelqu'un qui avait lu ça pour voir un petit peu comment ça se passait. Et
L'ai lu le truc de quartier. Disons c'est une méthode de création en commun où chacun vient ajouter des éléments qu'il a envie de voir figurer dans ce quartier et puis ça se construit comme ça en fait.
Ok, bon là on retrouve un peu le même genre de schéma.
On n'a pas de logique géométrique, enfin géographique dans le système. Ouais,
C'est une création de quartier littéraire dans le sens où en fait ça va te donner des noms, des personnages. D'accord. Peut-être des micro-lieux un peu typiques ou des choses comme ça, mais t'auras pas de plan.
D'accord. Alors là en fait c'est vraiment le plan qui est l'argument, et du coup par Hangout c'était très bien parce qu'avec un document partagé tout le monde pouvait bosser son petit bout de dessin et donc personne ne s'emmerdait en fait pendant qu'on créait le quartier. Un petit côté ludique, et pour l'instant moi je remplissais mes fiches de relations. Voilà. Donc nous on a créé un petit quartier avec des détruants du troisième, pas du troisième âge, mais en fait ils ont tous le plus jeune à 45 ans et la plus vieille Mamie Brousse à 72 ans. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça donne un peu plus tard.
Mais en fait c'est Saving Grace ou truc comme ça.
Ouais, non mais en fait on a fait un quartier d'Angleterre dans le nord, etc., avec l'ancienne usine fermée, etc., des ouvriers ukrainiens, enfin bon. Voilà, bon, plus d'informations un de ces quatre quand on aura fait ça.
Ouais,
on a fait vraiment le playtest. Ouais, du coup un ennemi qui va très vite s'imposer, ça va être les jeunes, forcément. Si vous jouez tous des vieux.
Bah, ils font du bruit dans le quartier.
Ouais, c'est ça. Hein. Mais est-ce que t'en as une qui est la voisine, Mamie Rousse, qui gère un immeuble en fait, qui se trouve juste en face. Bon,
oui, parce qu'avec leur mobilette et leur petit trafic, ça attire l'attention des flics sur Mediums qui sont plantés dans la cave.
Le problème du voisin, en fait.
Ce film avec Michael Caine. Là,
plus près du micro.
Je sais pas si vous avez vu ce film avec Michael Caine.
Je suis quasiment certain.
C'est un ancien soldat.
Harry Brown.
Harry Brown.
Et justement, je l'ai re-regardé dans la semaine parce que pour moi, c'est vraiment. Ça peut être aussi une vraie bonne idée, quoi. Une espèce de version moderne d'un Taxi Driver. Quelque part,
voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un ancien soldat à la retraite, tout doux, qui a un copain et qui à un moment s'énerve un peu contre les jeunes du quartier qui font
qui font n'importe quoi.
Son copain se fait tuer
complètement, oui.
Et du coup, il ressort les vieux réflexes de tueur
il était marine, effectivement. Donc il se met en plan, qui repère un peu les allées et venues des jeunes qui dealent sous le tunnel. D'ailleurs, en fait, à chaque fois qu'il passe devant, il doit choisir pour aller à l'hôpital ou un truc comme ça. En fait, il voit les jeunes qui sont sous le tunnel et en fait, il préfère faire un détour plutôt que de passer par là, parce que c'est leur quartier en fait justement. Ils sont, c'est le blocos des jeunes et bah voilà, ils font leur loi de temps quoi. Et donc bah ils viennent nettoyer le quartier. On est un peu dans les taxi drivers, des grands Torino, des choses comme ça quoi. Mais avec un autre feeling en fait. Du vieux qui est impuissant face à ce qui se passe, avec les flics qui viennent te voir à partir du moment où il y a des meurtres, ou quand tu viens de plaindre au démarrage, eux ne vont absolument pas agir. Voilà. Donc oui, il y a une possibilité, je sais pas du tout si ça peut dévier dans ce sens-là, mais on verra.
Sauf que là, à la base, c'est pas des gentils, les joueurs. C'est des
en fait, quand tu... Allez lire Chacun est gentil, j'ai la veuve d'un ancien mafieux ukrainien, mais elle, théoriquement, veut plus ou moins tenir le quartier en faisant un petit peu de raquette de protection, mais son but, c'est de protéger contre d'autres méchants. T'en as un qui fait théoriquement que des petites arnaques de... pour recevoir des aides. En fait, il touche les aides de plusieurs anciens ouvriers ukrainiens de l'usine. T'en as un qui était trésorier du syndicat, justement, de cette usine, et qui a détourné des fonds avant la fermeture de l'usine, et qui a un petit loft aménagé dedans, maintenant. Tant qu'on sait pas à qui vraiment appartient l'usine, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce que la mairie en veut, ou quoi que ce soit. Et le dernier, c'est une mamie qui est gardienne d'immeuble, et qui, en plus, pour arrondir les fins de mois, va aller faire du nettoyage dans des laveries. Donc tu vois, on n'a absolument pas des profils de truands. Alors, on n'a pas parlé de tout ce qui est les fronts et les menaces, en fait, par un truc assez classique dans les Apocalypse World. Là, on n'a qu'un front, c'est le quartier, et les menaces qu'on va avoir vont aussi venir de la carte. Quand on aura mis des choses dans le quartier, on va aussi demander aux joueurs qu'est-ce qui se trouve en dehors du quartier. C'est-à-dire que est-ce qu'on va parler d'un hôpital, est-ce que ça va être une banque, est-ce que ça va être la mairie, est-ce que ça va être l'aéroport, qu'est-ce qui intéresse ton personnage, ou si on est vicieux, qu'est-ce qu'il y a que tu aimerais t'approprier et ne pas avoir dans le quartier pour qu'un autre joueur ne l'ait pas. Ça peut être ça aussi. Je peux aussi dire je suis lié au truc du PMU parce que je le mets en dehors du quartier pour que le prêteur sur gage du groupe ne puisse pas y avoir accès directement ou soit obligé de se déplacer pour y avoir accès. Et en fait, pour réfléchir à quels sont les dangers...
Tu peux avoir des vraies stratégies géographiques...
Ouais, on peut, ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on peut clairement dire...
Quand tu dessines ton truc.
Voilà, bah nous, on a mis le sex shop en face de l'école catholique. c'est stratégique. Et donc, si les gens vont à la réunion des alcooliques anonymes qui se trouvent à l'étage le vendredi soir, c'est parce qu'en fait, il y a une vue sur ce qui se passe dans le sex shop.
Voilà. Oh, putain.
C'est pensé, voilà. Donc,
c'est une vraie démarche de businessman. Voilà.
Alors par contre,
d'un
autre côté, quand on va créer les difficultés que vont rencontrer les joueurs, on va justement utiliser ces éléments qu'ils nous ont donnés. C'est-à-dire, en gros, on va se poser la question en quoi les choses qui sont à l'extérieur s'intéressent à ce qui est à l'intérieur. Donc, les quatre éléments, admettons, si on m'a mis la mairie à l'extérieur, qu'est-ce que la mairie pourrait vouloir faire au sex shop, à l'église catholique, à l'ancienne usine, aux laveries, peu importe, etc. Quoi.
Un arrêté municipal pour que les sex shops soient à plus de 300 mètres.
De 300 mètres, par exemple, ouais, voilà, c'est ça.
Donc il va falloir corrompre le maire.
Bah, des choses de ce style-là pour se produire. Donc en fait, on crée comme ça très rapidement. Après, il n'y a plus qu'à créer des agents, donc des individus qui sont hors quartier ou qui eux-mêmes sont dans le quartier et qui vont donc commencer à rajouter des difficultés aux joueurs, quoi. Voilà, je pense que là j'ai dressé un portrait assez complet de ce qui se passe. Donc, comme on a dit, ça fait que 50 pages, ça coûte moins de 5$. Je pense qu'il y a d'assez grosses possibilités de jeu. Bon, j'ai quand même, bien évidemment, des petites critiques. Il y a les hacks Apocalypse World ont généralement 4 ou 5 traits. La plupart en ont 5. Et assez souvent, je trouve, quand il y en a 5, il y en a un qui est un petit peu délaissé. Là, en l'occurrence, on a ce que je vais traduire par le cran, qui permet de foncer dans le tas. On sent clairement que c'est pas la meilleure des optiques dans le jeu. Et du coup, c'est un trait qui me paraît un petit peu faible, par exemple. Comme dit, les moves sont techniquement simples, mais c'est pas nécessairement évident de voir quand est-ce qu'on va les caser. C'est-à-dire de se dire, ah mais là, est-ce que tu serais pas en train d'essayer d'effacer tes traces, ou alors est-ce que là tu fonces dans le tas? Quand est-ce qu'on case un move? Et qu'est-ce que va recouvrir un move? Est-ce que ça va être toute une opération? Est-ce que ça va être un détail d'une opération? Parce que si on commence à dire, je vais... Ah, on nous tire dessus. C'est Zihoud aussi.
Quand tu pètes, tu vas pas à moitié, toi.
Ah bah,
oh putain,
c'est la grosse Bertha. moi, je disais, en fait, on a les... Bah, je vais enchaîner directement avec un autre petit truc. En fait, théoriquement, on est censé faire des jobs.
Ouais.
Donc, genre cambrioler la banque, des choses de ce style-là. Il y a un micro-pouillème de règles, en fait, dessus, mais on n'a pas de détails précisément sur comment ça va s'organiser.
D'accord.
Ça va du style, il y en a un qui va commencer par se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a à la banque, et puis un autre qui va chercher des gars pour faire le casse et tout, mais en fait on n'a pas trop de détails sur comment ça se passe, sur comment on va le décomposer en termes de move, sur ce qu'un move va recouvrir. Genre voilà, est-ce que je gère un casse de banque en disant je fonce dans le tas, je fais un jet de dés, et si j'ai réussi, j'ai cambriolé la banque. Mais, ben, ça, mais, c'est un peu.
Et puis, en plus, est-ce que là, il n'y a pas un problème d'échelle de ce à quoi s'attaquent les personnages? Parce que tu me dis qu'ils ils sont caïds dans leur rue, mais.
Ils vont pouvoir former, un gang, en fait.
Oui, ouais, bien sûr, mais ça, est-ce que ça leur permet de s'attaquer à Sigrou ou,
non, peut-être pas. Ça va être peut-être.
Peut-être plutôt l'épicerie du coin ou je sais pas quoi.
Voilà, c'est plutôt ça. Faut le voir en pile modeste ou alors, effectivement, le guichet de la poste. Voilà, tu vas aller effectivement cambrioler le shopping plutôt,
le vendredi soir juste avant Noël, il y a la méga.
Ouais. Bah ça, en fait, tu vas plus ou moins t'orienter en fonction de ce que dit le MJ quand tu cherches à savoir s'il n'y a pas un coup juteux à faire, etc. Donc c'est vrai que tu vois à peu près sur le principe, sur le papier, je vois comment ça se passe. Dans le jeu en lui-même, je suis pas sûr pour le moment de savoir véritablement en combien de phases je décomposerai quelque chose. Bon, l'auteur là va bosser sur un espèce de one shot qui justement sera directement basé sur comment choper un camion de fond ou un truc de ce style là. Donc ça permettra peut-être de voir quelles sont ses intentions sur le sujet. Il écrit aussi des articles sur son blog, et c'est important parce que quelque chose qui m'a manqué, moi je connaissais donc d'autres systèmes d'Apocalypse War, mais un truc qui m'a manqué, c'est le fait de ne pas avoir d'agenda, de ne pas avoir de principe spécifique au jeu. Parce qu'on va avoir chaque jeu, chaque hack complet,
ouais,
a une, un mood, un thème un peu qui va se dégager et qui va être, je dirais, tu te rappelles plus, tu sais pas trop, et bah tu regardes ton agenda et on te rappelle que faut rendre l'apocalypse, vomir l'apocalypse.
C'est tout ce qui crée, ce dont on parlait tout à l'heure, le côté canonique de l'univers, c'est-à-dire les thèmes typiques vont se retrouver dans l'agenda ou dans
les
principes.
Il y a que le contexte, mais il n'y a pas le.
Alors on a un contexte, mais par exemple c'est un contexte qui n'a pas d'inspi. On peut pas dire que il est tiré de telle série. On peut pas dire comme Monster Hunter, regardez, vous voyez Twilight, vous voyez True Blood. Bon bah c'est quelque chose qui se trouve entre les deux. On peut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de modèle à proprement parler. L'auteur n'est pas parti d'un film ou d'une série particulière qu'il voulait émuler. Donc ça laisse, ça peut laisser aussi un peu, ça peut, chacun peut voir un peu quelque chose. C'est plus difficile que de dire bah tu vois tel film, ouais bah c'est pareil. On peut pas vraiment dire
d'ailleurs,
ça
d'ailleurs, ça se sent dans le nombre de livrets, hein, puisque les livrets sont assez nombreux,
ils sont très nombreux, ils sont très spécifiques. Et chacun vraiment, comme dit, en fait on cloisonne un peu le jeu aussi, parce que si on a quatre types de personnages, on pourra pas aller taper les pouvoirs, les moves de n'importe quel livret, mais vraiment ceux qui vont être autour de la table.
Et c'est
donc
vrai
ça...
C'est un jeu qui nous a été conseillé pour faire du The Wire, mais quand on lit le jeu, il y a une ambiance qui part un peu dans tous les sens, et on pourrait peut-être envisager de faire du The Wire avec, mais il faudrait restreindre
les bouquins. Voilà, tu dis bah ok, mais tu prends que un hacker, un machin, un dealer, et restreindre en fait les. Ouais.
J'ai une question là au sujet du nombre de livrets.
Ouais.
Si je me souviens bien.
Un peu plus près, s'il te plaît.
Sur le nombre de livrets, si je me souviens bien, sur Tremulus, il est censé y en avoir quand même une pléthore. C'est un jeu en moteur Machin World, comme dirait Yannick.
De directement dans le bouquin.
Bah en fait, le jeu a été kickstarté.
Oui.
Si je me souviens bien ce que j'avais vu dessus, à la base, il y a un petit groupe de livrets, mais ils avaient annoncé, à force de paliers de financement, ils avaient annoncé vraiment un nombre de livrets assez impressionnant. Et vraiment en prenant des différents aspects, différents types de personnages qu'on retrouve dans la littérature lovecraftienne. Et en fait, là, pour le compte, ça me fait me poser une question, parce que là, dans le cas de Tremulus, c'est un jeu où le style, l'inspiration est très précise, mais ils arrivent quand même à multiplier les livrets.
Oui.
Donc...
En fait, pour le nombre de livrets, alors là, on pourrait... comme dit, je connais pas tous les jeux. Donc, moi, je connais pas Monster of the Week, je connais pas Tremulus, ni The Dungeon World. Donc ça, voilà, je connais la moitié des bouquins, en fait, de Apocalypse World, en gros. Je sais que par exemple Saga of the Eight Thunder, c'est un truc où si tu regardes ce qu'il y a et que tu cherches à créer un autre livret, à part créer un Skald, encore c'est un peu bidon, ça correspondrait parce que ça correspond avec le thème, mais en fait c'est très difficile de trouver qu'est-ce que je pourrais créer en plus. Monster Hearth, qui va être basé non pas sur des créatures, sur des concepts de monstres, mais sur des pathologies humaines en fait, et plus particulièrement adolescentes, ce qui fait qu'on s'oriente vraiment sur une facette et qu'en fait après on colle une étiquette d'un monstre au dessus sans que ça soit véritablement ça. Là c'est relativement sans limite, puisque j'ai dû créer, je sais pas, presque une demi-douzaine ou une dizaine de demus supplémentaires par rapport au bouquin, et voilà. The Hood, à mon avis, dès le démarrage, on a vraiment un panel extrêmement large, et il doit être assez difficile de trouver un archétype qui n'y est pas. mais en se basant sur une foultitude de séries, de films ou quoi que ce soit, sans se baser sur un élément précis, quoi.
Ensuite, c'est peut-être aussi le... Enfin, faudrait que je revoie la liste des livrettes sur Tremulus, mais il y a peut-être aussi finalement une erreur de vouloir multiplier les livrets, tout comme à une époque, il y a longtemps, on multipliait les classes de personnages pour ADD,
oui.
Où finalement tu te retrouves à dire, ouais, je vais faire un livret super original, et ensuite si tu le décortiques, tu t'aperçois que c'est jamais qu'une petite ressucée ou une vague variation.
Ou un focus sur un sous-thème, entre guillemets. Bah, je me rappelle, on avait même pour Apocalypse World, on avait même des fois des add-ons. Genre, en gros, si tu prends tel personnage, mais que tu veux l'orienter sous ce type-là, à ce moment-là, rajoute cette micro-page de move que tu peux faire en plus.
Globalement, c'est plus intéressant de partir comme ça que de multiplier les classes de perso.
Bah, vu que, là, ils sont, comme dit, elles ont toutes 6 moves. Avec 0 à 2 moves sélectionnés dès le démarrage. Et comme dit, je pense que ça fait vraiment la palette complète. Mais il faut peut-être effectivement avoir une réflexion en amont en fonction du style de jeu qu'on veut avoir. Là, on a fait un test, j'ai mis tout. Hein, j'ai donné les 18 noms, grosso modo, et vaguement à quoi ça correspondait. Et je pense qu'en fonction vraiment du thème qu'on veut avoir, on peut envisager de restreindre fortement les choses.
Mais tes joueurs, ils ont discuté entre eux pour choisir leur livret, puis ils n'ont pas par hasard pris que des personnages qui étaient extrêmement vieux.
Ah non, mais ça c'est pas le livret, c'est eux qui ont défini à l'intérieur du truc qu'en fait ils se voyaient plutôt la quarantaine finissante, avec des enfants, etc. Ça collait mieux à... Genre, on a connu un quartier verdoyant, une époque économique correcte, et puis bon, bah, depuis que c'est la crise, c'est quand même beaucoup moins bien. Et puis chacun ses petites magouilles pour survivre parce qu'il n'y a plus vraiment de travail honnête.
Mais ils ont choisi leur livret chacun de leur côté ou ils ont discuté?
Non, c'était en liste ouverte en gros. Moi, c'est du style, voilà, je lui dis, il y a tout ça. Est-ce que quelqu'un est intéressé par tel ou tel truc? Et puis bon, à la fin, il y en a qui disent, bon, bah, moi j'hésite entre celui-là et celui-là, bah, moi je prends le premier, donc bon, bah, ok, je prends le deuxième. Voilà. Mais c'était pas chacun dans son coin, mais il n'y a pas eu de concertation véritablement non plus, puisqu'il y a eu, il y avait effectivement un choix assez large, quoi.
De toute façon, voilà. c'est deux approches du lancement d'une campagne, c'est-à-dire soit le meneur. C'est déjà ce qu'il veut faire, et dans ce cas-là, il va réduire sa liste de livrets en fonction de l'ambiance qu'il veut poser.
Oui.
Soit il ne sait pas encore, et finalement, le choix de livret ou de classe de personnage devient une note d'intention de la part des joueurs qui vont dire bah, finalement,
c'est ça qu'on veut voir.
J'ai envie de jouer ça.
Mm-hmm. Voilà. En fait, pour moi, le danger, c'est d'arriver à, avec les choix des joueurs tellement différents, d'avoir d'un côté de la table quelqu'un qui veut jouer à Pulp Fiction, de l'autre quelqu'un qui veut jouer à Snatch, et de l'autre quelqu'un qui veut jouer à The Wire. Et c'est un peu l'impression que j'ai en lisant l'ensemble des livrets. Mais j'ai pas testé
ça. C'est pas faux ce que tu dis.
C'est là où.
On arrive à un tel éventail de possibilités. Que finalement il est possible que les joueurs aillent dans des directions qui sont carrément opposées et que du coup la partie soit pas aussi sympa qu'elle pourrait l'être si tout le monde allait dans le même sens.
Ouais, et c'est ce que je rencontre là en fait, parce que, donc, même si on n'a pas fait la partie, j'ai préparé ma première partie et j'ai eu des difficultés parce que je me dis ok d'accord, faut peut-être que j'attende de voir comment machin se lance. Parce qu'avec les questions posées au démarrage, etc., ça suffit pas. Il y a besoin de lancer une amorce, entre guillemets, que j'ai pas, moi, en tant que MJ, envie de forcer. En tout cas, pas sur tous les personnages. Et là, je suis un peu dans le flou, parce que le bouquin va pas prendre le relais. J'ai créé mes menaces, etc., j'ai des choses qui peuvent tomber, qui peuvent se déclencher, mais j'ai quand même besoin d'un input, en fait, initial des joueurs, parce que je vois pas, en fait, véritablement, dans quel sens ils vont aller. Sauf si je les titille dès le démarrage, mais je vais pas en gros faire un événement qui fout tout le monde à la rue et qui oblige tout le monde à venir bosser main dans la main, etc. et à préparer le coup du siècle. Ça me paraît pas intéressant, ça me paraît trop artificiel en fait vers ça.
D'accord.
Donc j'aurais vraiment aimé pouvoir faire cette partie, mais ça n'a pas été possible. Et du coup, je reste un peu dans un flou aussi sur l'efficacité de la chose. Et c'est là où le manque d'agenda, je pense, manque de choses spécifiques. Alors comme dit, l'auteur a fait un article du coup sur son blog et ils vont peut-être envisager de refaire le PDF éventuellement en rajoutant 2-3 petites règles et en rajoutant en fait ces agendas là, parce que l'auteur est très accessible si on discute avec lui par Hangout. Comme dit, il n'y avait non plus pas de détails sur la manière de mener un job. On a aussi d'autres petites choses qui manquent. On a la possibilité d'avancer des manœuvres, mais en fait on n'a pas les textes des manœuvres avancées. Donc pareil, en discutant avec lui, il nous donne très vite sa vision sur les manœuvres basiques. Et en fait, pour avancer toutes les manœuvres qu'on trouve dans les livrets, c'est chacun fait comme il veut quoi. Enfin, on encourage les joueurs et les MC à venir avec leurs propres idées.
C'est du work in progress, quoi, quelque part.
Ouais, c'est ça. Ça m'a laissé quand même un petit... Même si on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, il y a de quoi faire, il y a un potentiel, il manque des petites choses pour que ce soit un produit fini, même si c'est un produit qui restera dépendant de la connaissance ou de la possession de System Apocalypse World. Et parallèlement à ça, j'arrive pas encore à juger de la viabilité de la chose à long terme. Mais est-ce qu'on risque pas de la monotonie ou une forme de lenteur dû au système d'XP, qu'il n'y a pas énormément de moyens de gagner d'XP? Pour gagner de l'XP, le meilleur moyen, c'est de gagner de la pression, et si tu gagnes trop de pression, tu te fais griller. Donc j'ai peur qu'on tombe aussi très facilement dans un schéma de « je fais un truc, dès que je vois que c'est trop foireux, je vais me planquer pour avoir des alibis, je gagne des gars sur mon ardoise qui m'obligent à refaire des trucs foireux, qui me font gagner de la pression, qui me font me replanquer. » J'ai peur un peu d'une courbe comme ça, hein, d'une sinusoïdale un peu...
En fait, ça me fait penser à ces séries télé où les personnages n'évoluent jamais. Et,
parce que tu cherches juste à rester à flot, en fait.
Ouais.
Et t'arrives jamais vraiment à te sortir des trucs.
Avec le système d'expérience, je reconnais quelque chose qui me gêne dans pas mal de systèmes qui utilisent le système Apocalypse. C'est, donc là, il faut qu'on se mette dans des situations merdiques pour gagner de l'expérience. Et évidemment, ça crée du jeu puisque on est obligé de se mettre dans des situations conflictuelles pour gagner de l'XP. Mais ça crée le jeu d'une façon vraiment un petit peu mécanique et un peu simpliste. Enfin, ça nous amène à jouer notre personnage de façon un peu bête, en fait. Moi, j'ai ressenti ça, par exemple, dans Apocalypse World Dark Ages, qui est le nouveau hack de Apocalypse World.
Tu l'as?
Non, je ne l'ai pas, mais...
ah bah voilà, personne ne l'a, en fait. On aimerait bien l'avoir, mais...
Quelqu'un me l'a fait tester en convention.
Et psst. S'il te plaît.
T'as du Dark Ages.
Faut le demander à Vincent Baker, a priori, mais...
Non, mais il voulait plus qu'on lui demande.
Je sais pas où le trouver.
Et
mais
voilà, David n'a pas sa dose, voilà. Il est en train de nous
faire comme tous de tristesse.
Ah non, je n'ai pas Dark Ages.
Mais ça va, j'ai Urban Shadows qui est pas mal.
Ouais.
Mais donc là, pour gagner de l'XP, il faut qu'on fasse plein d'actions différentes. Et pareil, moi, mon personnage, je voulais absolument qu'il gagne de l'XP pour faire apparaître quelque chose dans l'intrigue. Enfin, je voulais faire apparaître un dragon. Gagner de l'XP me permettait de faire apparaître un dragon. Et ça m'a amené, pendant tout le scénar, à faire un peu n'importe quoi et à cocher la liste des actions. Donc, par exemple, j'avais jamais attaqué personne et je m'étais jamais pris de dégâts. Donc, j'ai volontairement attaqué quelqu'un qui était beaucoup plus fort que mon personnage, de façon quand même un peu... Enfin, pas complètement justifié par la fiction, et ça m'a permis de faire apparaître mon dragon, mais de façon... Enfin, il y avait quelque chose de particulièrement d'artificiel et de mécanique. Enfin, la fiction rencontrait pas les mécanismes, et j'ai peur qu'on ait le même souci avec ce système d'XP qui joue sur la pression.
Mais ça, c'est le lot commun de toutes les règles. Elles ont vocation à être abusées. Elles ont vocation à être abusées, les règles. Elles sont... Dès que vous mettez une condition pour quelque chose, ben
c'est une mécanique incitative.
C'est anthropique, hein. C'est la pente naturelle.
Oui, on sait qu'il fait chaud, mais c'est pas pour autant que c'est les tropiques.
Pour moi, c'est même pas abusé. Pour moi, c'est pas abuser les règles.
Vache, tu dois avoir vraiment chaud à la tête là. Tu coules.
Oui, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est même pas vraiment un abus des règles. Enfin, l'incitation des règles, mettez-vous dans la merde pour gagner de l'XP. Pour moi, c'est un usage, certes un petit peu extrême, mais logique et cohérent avec ce que l'auteur cherche à me faire faire avec son
disons,
système.
Il y a certains cas, par exemple, dans Dungeon World, ça marche super bien parce qu'on est dans un contexte héroïque où les personnages sont susceptibles de faire ce genre de trucs.
Dans Monster Horde, c'est bien aussi parce que tu joues un adolescent, donc de toute façon, c'est normal si ce que tu fais est stupide et absolument pas cohérent avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc ça passe aussi.
Il faut dire Monster Hearts, les cœurs de monstres. Bon, ah oui. La seconde remarque, c'est en fait,
Jonathan Hart.
Ça rejoint les réflexes qu'on pouvait avoir il y a 20 ans en disant ah ben non, mon personnage peut pas faire ça, c'est pas dans son background et tout. Et
tu sais que c'est à cause de ce genre de phrase là que Ilfolk a été fait aussi.
Ah bon,
quand tu auras tout lu, et pas seulement 3 pages. Bam, ça fait mal. Hein.
Ouais, bien, c'est grâce parce qu'il faut qu'il y ait un très bon jeu.
Nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit le camarade.
Bon, mais ça fera un
ce sera un autre débat.
Fois, oui.
On sent le côté apéro de ce radio-liste. Là, ça commence à virer.
D'ailleurs,
on a
les verres sont vides.
Dans le sang. Hein,
alors, d'ailleurs, donc.
Encore un point sur l'expérience. Je reste sur le. Saga of the Islander, je trouve, est le meilleur pour ça. Parce qu'en fait, en début de séance, tu définis quels sont les personnages avec lesquels tu souhaites interagir. Et tu gagnes un XP si tu as réussi à interagir avec les personnages que tu as choisis. Donc tu orientes l'histoire par un choix d'interaction, qui est donc aisément réalisable, qui ne colle pas à n'importe quoi, qui est choisi par le joueur, mais qui ne peut pas faire n'importe quoi à chaque partie, puisqu'il n'est plus en... il en sélectionne 4, mais il ne peut en modifier que 2 par partie. Mmh. Donc tu t'attaches quand même à certains personnages. Voilà. Mais en ce sens-là, pour le moment, c'est ce que j'ai vu de mieux. Mais peut-être Urban Shadows, tout à l'heure, vas-tu nous...
Oui,
bah d'autres choses.
Je pense que je vais enchaîner avec ça.
Ils sont croix à Paris, hein. Ils font des feux d'artifice en plein après-midi.
Je vais enchaîner avec ça, mais d'abord, nous allons faire une toute petite pause, car il faut absolument qu'on ouvre les fenêtres.